On va faire un petit tour de table tout de suite. Je commence avec toi, Nadia. On va être poli, on commence avec une fille. Ton deuxième livre est paru il y a quelques semaines.
C'est fin janvier.
Oui. L'amour n'est rien.
Ouais, voilà.
Et c'est un livre où finalement, l'amour c'est tout.
Ben, en fait, oui, il faut lire le livre pour le comprendre, je pense.
Oui, mais exactement, on va essayer de donner le goût.
En fait, je crois que la narratrice essaie de se convaincre que l'amour n'est rien, mais enfin, on se rend compte en lisant le roman qu'elle pense, quelque part, elle pense le contraire.
Effectivement. Oui. Quand on parle un peu de ton parcours, toi, tu as commencé, ben c'est ça ce que j'ai dit tantôt, je fais de la radio aujourd'hui avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience de radio que moi. Toi, tu as commencé dans la Beauce à faire de la radio à temps plein.
Oui, j'ai commencé, j'avais pas tout à fait 20 ans encore, j'en ai fait jusqu'à, en fait, en 19-20. J'ai commencé vers 19-20 et j'ai arrêté d'en faire, j'avais à peu près 24-25 ans.
Et maintenant, tu es écrivain, Evan, mais tu travailles aussi comme professeur.
Je suis aussi enseignante, oui.
Oui, de français.
Oui, c'est ça.
Au secondaire. Tu es une grande courageuse, hein, tu le sais.
Oui, je prends mon courage tous les matins.
En tout cas, moi, je trouve que c'est ça le milieu le plus difficile. Et Richard Sainte-Marie, toi aussi, tu es à ton deuxième roman?
Oui, L'Inaveu.
L'Inaveu.
C'est un mot qui n'existe pas dans la langue française, mais dorénavant,
il est très beau.
Il va exister. Ouais.
Oui, c'est un très beau mot et ça va très bien avec ton livre. De ton livre, on va en parler tantôt. Toi, tu écris du polar.
Oui, des nouvelles et des romans.
Il faut dire que toi et moi, on a une relation privilégiée. Je suis sur le jury
du
prix Alibi et à trois reprises, on a vu tes textes arriver. Tu as eu une mention spéciale et finalement, tu as été gagnant. Et là, L'Inaveu, la radio, ça t'accompagne depuis fort longtemps aussi. Oui. Tu es professeur d'université à la retraite.
Je l'étais jusqu'en 2000. En 2002, mon dernier étudiant de maîtrise, François Lemay, qui est maintenant à Radio-Canada l'après-midi, François m'avait demandé si je voulais faire de la radio avec lui. Il dit, moi, tout seul, ça me gêne. Alors, j'ai dit, OK, ah oui, c'était un rêve. Alors, j'ai commencé en 2002, puis j'en ai fait jusqu'en 2010. J'ai fini avec Jean-Pierre Gay.
L'aérospatiale.
L'aérospatiale, où on a interviewé plus que 600 artistes en arts visuels. Avant Jean-Pierre, je faisais des émissions toujours sur des créateurs, des écrivains, des musiciens, des acteurs.
Et c'est quand même particulier, faire une émission radio sur les arts visuels. Juste ça mérite d'être souligné. Et c'est Sécarel qui nous offre cette opportunité-là.
On était à l'époque la seule émission d'art visuel hebdomadaire au Canada.
Au Canada?
Oui, madame.
Oh là!
Sécarel.
Oui, Sécarel, hein?
Oui, bénévole en plus.
Oui, c'est ça. On attend aussi, vers 9h, Stanley Péan. Bon, là, on n'a pas à souligner qu'il fait, pendant toute la semaine, quand le jazz est là, pendant 2h30 à Radio-Canada. Fait que là, on a un vrai pro avec nous. On est de retour à Sécarel, deuxième journée du Radioton, à l'émission Jazz et littérature, Barbe Rinker au microphone. On s'est déjà présenté et là, Nadia Gosselin, on va parler de ton livre. L'amour n'est rien, je l'ai dit tantôt en introduction. L'amour est quelque chose dans ce livre-là. Je me rends compte, et ça, c'est moi aussi. Moi, je te l'ai déjà dit, des histoires d'amour, c'est pas mon truc. J'ai toujours peur de tomber dans chick lit. Mais c'est pas ça. Absolument pas. C'est ça. Tu nous racontes un peu ce que c'est l'amour n'est rien?
Ben en fait, c'est l'histoire d'un deuil amoureux. Alors, donc au départ, il est certain que je devais, pour bien faire comprendre le deuil que la narratrice va vivre dans cette histoire-là, je devais faire comprendre un peu au début le beau côté de l'amour. Alors au début, tout va bien, ça flotte sur un nuage, notre narratrice a presque des ailes dans le dos. Donc c'est le côté où tout va bien, tout est léger. D'ailleurs, la narration est très aérée, hein, très légère, très poétique même. Et puis, tout à coup, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Bon, les complications, ça commence à devenir un peu plus compliqué, un peu moins... le deuil commence à s'amorcer tranquillement, pas vite. Et là, on entre plus dans vraiment un roman de... Il y a beaucoup de réflexions, hein, beaucoup de réflexions personnelles. Elle réfléchit, bon, par rapport à ce qu'elle veut, à ce qu'elle souhaite, mais à ce qu'elle idéalise aussi.
Moi, je trouve qu'il y a aussi... Bon, on n'apprend pas grand-chose sur elle et on apprend tout sur elle. Est-ce que je me trompe? Parce qu'on ne sait pas tu sais, quel âge qu'elle a, de quel milieu non. qu'elle vient, tu restes très vague là-dessus. Tu sais, il y a quelque chose où on n'a aucune
idée.
En fait,
j'ai épuré, mais j'ai l'habitude de faire une écriture toujours assez épurée. J'enlève toujours tout ce qui est accessoire. Je m'en vais à l'essentiel. Là. On ne sait pas quel âge elle a.
Non.
On ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie. On sait, c'est vrai qu'on sait très peu de choses. J'ai tout occulté ça pour
mais
me concentrer. Mais
sur lui, on apprend plus de choses.
Oui, parce lui... que c'était essentiel dans l'histoire. Il fallait savoir qu'il était en instance de divorce. Mais en fait, il était en séparation, donc en instance de divorce, qu'il avait des enfants, parce que ça jouait beaucoup.
Oui.
Et
on a même un doute s'ils se séparent. Hein? Moi... Dès le début, j'avais l'impression, quel salaud, ça s'en va où? Oui. Tu sais, je sais pas, peut-être que j'espérais que ça aille pas bien. Ah, c'est un peu ça. Parce que là, on arrive un peu au tabou, quand je te dis, il y a un tabou autour de l'amour.
Moi, je pense que oui, il y a un tabou. En fait, je m'en rends compte. En ayant publié ce roman-là, il y a un tabou. D'abord, si on dit qu'un roman parle d'amour, tout de suite en partant, il y a certaines personnes qui sont rébarbatives. Ah non, roman d'amour,
les gars,
c'est pas
pour moi.
Les gars, les hommes.
Oui,
les
mais hommes. Parce qu'on a l'impression que ça va être quoi? Je sais pas, du Harlequin, mais mon Dieu, je pense que je suis à 100 milieux du...
Ou de la chiclette, qui est la nouvelle, c'est le nouveau Harlequin, ça.
C'est ça.
La fille est niaiseuse et elle tombe sur le plus beau gars et ils vont finir ensemble et se marier.
Non, je m'éloigne justement de ça parce que c'est pas du tout quelque chose qui correspond à ma façon de voir les choses, là. Je m'intéresse au drame ordinaire. En fait, il y a une critique dernièrement qui reprochait au roman justement qu'elle trouvait l'histoire banale. Puis c'est le mot qu'elle avait employé. Mais c'est vrai, et c'est effectivement une histoire banale comme plusieurs personnes peuvent vivre. C'est une histoire d'amour comme les autres, c'est une peine d'amour comme les autres, à la limite. C'est ce qui m'intéresse, le drame ordinaire. Je suis un petit peu en réaction à tout le sensationnalisme qu'on a toujours dans les médias, où il faut toujours que tout soit exagéré,
que tout soit
tiré à l'extrême. Oui. Moi, je trouve que les petits drames du quotidien sont des grands drames en soi. Il n'y a pas de drame qui ne soit grand en lui-même. C'est ce que je te disais l'autre jour. Je crois que tout est dans la manière de le vivre. Et je crois qu'on se laisse même pas le temps de nos jours, le temps de vivre nos deuils amoureux. On passe d'une relation à l'autre. Je ne sais pas si c'est cette société-là de consommation qui fait ça, mais il y a juste à regarder quand quelqu'un devient célibataire. Regardez sur Facebook. Quelqu'un devient célibataire, il y a toujours quelqu'un quelque part pour répondre. Un de perdu, 10 de retrouvé. Fais-toi-en pas, tu vas en trouver un autre.
C'est une drôle de consolation.
Mais moi, je trouve ça épouvantable. C'est comme on tourne la page, puis trois jours après, la personne s'est déjà réinscrite sur un site de rencontre. C'est comme on magazine les relations comme on magazine une maison, là, puis on se fait des fiches sur les réseaux rencontres, comme je viens d'en faire une sur Direct du proprio pour vendre ma maison.
Oui.
Alors, on ne se laisse pas le temps ni le droit de vivre la peine d'amour. Puis la personne qui vit sa peine d'amour va peut-être en parler un peu à des amis très proches, mais elle n'en parlera pas longtemps parce que rapidement, on a l'impression qu'on tanne les autres avec ça puis qu'on va se faire dire « Ah, c'est assez, là, oublie-le, tourne la page. » Alors, je revendique le droit...
À la peine d'amour.
À la peine d'amour et le droit de la vivre pour justement être capable de passer au travers.
Puis de la raconter aussi. Parce que ton travail, c'est de la raconter, même si c'est la vie quotidienne.
C'est ce que je disais. C'est un drame du quotidien, mais c'est un drame que tout le monde peut vivre à différents moments de sa vie, de différentes manières. Et beaucoup de personnes, je pense, hommes ou femmes, peuvent se reconnaître dans cette histoire-là.
Parce que même le gars vit une peine d'une certaine manière, une double peine, parce que il sort d'une relation, il rentre dans une nouvelle... Oui. Qui ne marchera pas non plus. Fait que, tu sais, même si on est plus proche de la fille, parce que c'est elle qui raconte sa peine, mais moi, j'étais quand même sensible à ça, à me dire, coudonc, lui, il ne se rend pas la vie facile non plus, là. Tu sais, à ça.
Ben,
avec ce magasinage de relations.
Oui, c'est cette période d'hésitation où on doit refaire le point sur sa vie parce que, bon, lui vient de se séparer. Donc, évidemment, il faut qu'il fasse un peu le bilan de sa vie, savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir, qu'est-ce qu'il ne veut plus. Il a besoin de se redéfinir. Après avoir passé des années en couple, souvent, on a perdu un peu de son identité. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui est nous et on ne sait plus faire la part entre les concessions qu'on a faites pour s'adapter à l'autre et la personne qu'on est vraiment et nos vraies valeurs. Il y a beaucoup de ménage à faire, mais combien de personnes, justement, à 30 ans, 40 ans, se séparent, puis ont tout ce ménage-là à faire. Ouais. Et ils doivent le faire. Je pense que c'est essentiel, plutôt que de passer d'une relation à l'autre, justement, sans prendre le temps.
Et ce carrousel de relations, il s'accélère de plus en plus. J'ai l'impression des couples qui durent, il y en a de moins en moins. T'sais, ça fait que, tu sais, c'est sûr que ton livre, il devient vraiment quelque chose à se rappeler quand on a le droit de vivre ce deuil-là, mais aussi d'essayer de vivre une relation heureuse. Parce que tu finis ton livre en disant « L'amour n'est rien », mais ce qu'on ressent, c'est que c'est l'essentiel.
Ben, en fait,
elle vit que pour ça.
Oui,
c'est drôle parce que Brassens, ben, il parlait de chansons, mais il disait il y a l'amour, la vie, la mort. Ceux qui pensent qu'il y a autre chose, ils n'y connaissent rien.
Ben, je pense la même chose. Je pense la même
trouve
chose.
Que
ça... tout le reste est accessoire.
Ça conclut bien notre tour et on va partir en pub. De retour au Radioton de CKRL à l'émission Jazz et littérature, Richard Sainte-Marie, l'inaveu.
Oui.
C'est du policier, du vrai.
Oui.
C'est une enquête.
Enfin.
Enfin. Oui, oui effectivement.
Parce je disais à mon éditeur, Jean, petit gros, tu vas finir par faire un auteur de roman policier avec moi.
oui, parce que ton premier roman, il y avait une promesse de roman d'amour. Je déparle, roman policier. Et ouais. Finalement, non.
Non, ben, ça n'était juste, pas un. Non.
Non, ça n'était pas un. Mm. Justement, c'était, il y avait un côté roman d'amour très déçu, hein, ce qui a mal fini. Bon, l'inaveu, raconte-moi un petit peu, c'est quoi? C'est quoi ton...
Comment dire sans trop dire, parce que...
Oui, c'est ça. Bon. J'aimerais ça que toi, tu t'aies des bonnes choses. Que ça soit pas moi.
Moi, c'est drôle parce que quand j'en parle avec quelqu'un qui l'a lu, c'est plus facile. Mais là, les auditeurs
moi, je l'ai
l'ont
lu, mais
lu.
Nadia n'a pas lu, lu non
alors,
plus.
Fait que,
parle à Nadia.
Il était une fois. Parce que dans le fond, quand on écrit un livre, c'est « Il était une fois oui. ». Hein, c'est toujours ça. Une fois, comme je dis à mes petits-enfants, une fois, c'était un gars. L'histoire est finie. Mais c'est l'histoire d'un gars qui trouve, en faisant le ménage de la maison de son père est mort, alors il fait le ménage de la maison pour la vendre. Il trouve un album de photos, mais ce n'est pas des photos qu'il y a dedans, c'est des coupures de journaux. Il se demande parce que c'est des crimes. Alors, ce n'est pas du tout le style de son père qui est un comptable, bricoleur, sérieux. Bon. Puis après, il trouve un carnet dans lequel il y a des inscriptions étranges, puis il y a une relation entre le carnet et l'album de photos, de coupures.
Oui.
Des choses qui se sont passées dans les années 70, alors qu'on est en 2007. Et c'est tellement troublant, parce qu'il y a des crimes, puis son père est lié, forcément, puis il y a un individu qui s'appelle C.S.,
oui.
Qui est en rapport avec ça. Alors, il se demande qu'est-ce qui se passe, il va voir les...
Oui. Il y a aussi une autre chose qui, moi, m'avait tout de suite intriguée. Il n'y a pas un grand héritage. Tandis que d'un comptable,
oui. On s'attend à ce qu'il y ait un grand héritage. L'homme, il était dans une grosse firme, il était co-actionnaire. Donc, c'est un peu étrange. Il va voir la police avec ça. Et la police, l'inspecteur Pagliaro, s'appelle Francis Pagliaro. Ben, il lui dit, écoute, avec ce que tu m'apportes, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de victime. Faut que tu me trouves autre chose. Alors, il va finir par trouver autre chose et là, l'enquête va débouler et ça va régler des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Mais qui est ce fameux CS? C'est toute la quête du sergent détective pendant le livre pour trouver ce personnage-là clé. Alors,
oui.
c'est l'histoire du livre. Et c'est drôle parce que...
Mais il y a aussi l'histoire, c'est qui ce père de Régis?
Oui.
Parce que moi, j'ai trouvé ça encore plus intéressant que la quête de CS.
Ah,
parce que oui, il y a un suspense.
Le
mais,
père de Régis Duchesne.
Oui, on va faire connaissance avec ce comptable-là. Mm-hmm. Et ça, je trouvais que c'était une quête. C'est là l'inaveu aussi.
C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'il y avait ça dans mon autre livre et il y avait ça aussi... Dans tous les travaux que j'ai faits en dessin, en photo, pendant toute ma vie, il y a comme un thème qui revient tout le temps. Puis un seul. Ça revient toujours à « il n'y a pas pire prison que celle qu'on se fait soi-même ». Puis c'est un peu ça l'histoire en dessous. Moi, j'aime les histoires qui en cachent une autre, ou même des personnages qui en cachent un autre. Dans les romans, on peut faire ça.
Oui.
On peut prendre un personnage puis le faire figurer pour qu'il devienne l'incarnation d'un concept. ou par exemple d'une idée ou d'un sentiment. Mais il peut cacher une histoire, un personnage peut cacher une histoire, mais une histoire aussi est dans l'histoire. Et ça c'est important pour moi, c'est comme une fable. Puis l'idée que la pire prison, c'est celle qu'on se fait soi-même, je me suis aperçu tard dans ma vie que c'est récurrent dans tout ce que j'ai fait. Est-ce que moi, je suis comme ça? Je ne sais pas. Je ne ferai pas de la psychanalyse de moi-même, puis mes livres ne servent pas à faire ça non plus, mais j'ai été prof d'art toute ma vie. Je me suis rendu compte aussi à quel point certains grands artistes visuels ont aussi une ou deux idées dans la vie, pas plus. Brancusi, c'est une idée, deux idées. Oui. L'oiseau, l'envol, le poisson, tout est autour de ça. Henry Moore, le sculpteur britannique, la forme dans la forme. Quand sa femme est devenue enceinte, il y a une forme qui était dans la forme, qui bougeait. Alors, il s'est mis à faire des sculptures trouées dans lesquelles on voyait d'autres objets. Alors, toute son œuvre est fondée là-dessus, sur une idée, et mieux d'être bonne.
Ouais. On a toujours nos thématiques Picasso, récurrentes. Hein?
Ouais. Oui.
On a toujours, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est un peu inconscient. Là. Moi, je m'en rends compte. Je me rends compte que d'un manuscrit à l'autre, je suis toujours dans l'idéalisation amoureuse. J'essaie toujours de déconstruire.
Il ne faut pas combattre ça. Stephen King l'a dit dans une préface d'un de ses livres, et c'est formidable. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis sur le bord d'un étang. Il fait beau. Il y a des libellules. C'est calme. Mais moi, je pense que dans l'étang, si on va au fond, il y a un trou. Puis là, il y a des abominables personnages ou des êtres dangereux. Puis si on va jusqu'au fond, ce trou-là, il rejoint la mer là-bas. Puis là, c'est la catastrophe. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça qui me vient à l'esprit. Alors, il dit, je suis pas fou. J'ai arrêté de lutter contre ça. Puis j'écris ça, puis ça me rapporte beaucoup d'argent. Là, on n'est pas rendu là, nous, là.
Non, mais je suis d'accord avec ça aussi. Il ne faut pas lutter.
Le début de la proposition est vrai. Il ne faut pas combattre ça. Si c'est ça qui vient, ben faisons ça. Autrement, on fait semblant d'être un auteur.
Ben voilà. Ben bon. Oui, moi, je pense que c'est... Pour moi, c'est l'eau au moulin, là. C'est ce qui alimente mon inspiration. Puis, justement, pourquoi lutter contre ça? Puisque c'est notre sujet, notre thématique de prédilection. Puis je pense que, justement, si d'un roman à l'autre, on travaille là-dessus, ça nous permet de le voir sous toutes ses facettes, puis justement, d'aller au fond de cette thématique-là, justement.
On va partir... Pause musicale. On a maintenant Stanley Péan avec nous. Bienvenue au Radioton, Jazz et littérature.
Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Surtout quand on a la bonne musique qui nous accueille.
Oui, hein, c'était arrivé au bon moment. On était en train de parler avec Richard de l'Inaveu et j'aimerais quand même encore qu'on approfondisse un peu le personnage de Pagliaro.
Oui.
Parce que tu as créé là...
un beau personnage.
Oui, j'aimais beaucoup ton monsieur Emmerly, mais Pagliaro aussi,
oui,
je l'aime beaucoup. Oui,
ils ont des points en commun.
Oui.
Ben, ils ont en commun d'aimer la musique classique, c'est déjà pas mal. Oui. Pagliaro, sergent détective de la Sûreté du Québec, aime le Schubert. Il aime surtout les pièces de Schubert avec peu d'instruments, des quatuors, des trios. Et Emmerly, qui est un personnage de mes nouvelles, qui est un tueur à gages, lui aime plus le chant. Alors, il aime beaucoup une cantatrice dont il s'occupe. Donc là, on parle plus d'air d'opéra et de cantate. C'est parce que c'est la musique que je connais aussi. C'est la musique que j'ai jouée quand j'étais plus jeune. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait du jazz aussi, les gars, c'est vrai? Ouais.
Quel instrument?
Saxophone. J'ai joué à 16 ans. J'ai commencé à jouer avec un ami qui avait 15 ans, Daniel Lessard, qui est maintenant plus connu. Et on a joué du jazz à cette époque-là. On avait la même formation que Dave Brubeck. Donc, moi, je jouais du Dave Brubeck. Puis c'était l'époque aussi. Quand j'avais 16 ans, on était en 61.
On était...
Take five.
Ouais, take five. Mais quand même, mes premiers amours, c'est pour la musique classique. Alors, je transmets dans mes personnages un peu mes goûts, c'est mes livres. Je peux faire ce que je veux. On fait tout ça. Hein. On met ce qu'on veut. Hein.
Nous sommes Dieu.
Oui, c'est ça.
C'est le pouvoir d'écrire ou de réécrire des histoires. C'est merveilleux.
Mais des fois, on tombe sur un personnage qu'on développe tranquillement, qui se développe, qu'on développe, puis on se met à l'aimer. C'est ça l'aventure des lecteurs. Parce que quand je faisais de la radio, je disais il n'y a pas de radio quand il n'y a pas d'auditeur. Mais c'est vrai pour les livres. Il n'y a pas de livres si personne ne les lit.
Oui.
Alors, ça prend des libraires, ça prend des éditeurs, ça prend tout le monde.
En fait, j'ai vu une BD dans le journal Voir cette semaine Puis il y avait une petite BD, justement, où il y avait un petit bonhomme qui disait que c'était le lecteur qui était Dieu et qu'il avait le droit de vie ou de mort sur un livre.
Ben c'est vrai, on peut fermer le livre.
Oui, le petit bonhomme finit en psychanalyse aussi dans la BD en question.
On peut arrêter à l'avant-dernière page, puis l'auteur ne le saura jamais.
Ah, voilà. Hein?
Ça m'arrive des fois dans les policiers que je veux relire, je ne veux pas savoir c'est qui le meurtrier à la fin.
De toute façon, c'est le maître d'hôtel. C'est toujours le butler qui a fait le coup.
Ben, vu de même, j'en ai vu assez pour dire non, pas tout le temps, pas tout le temps. Pagliaro étudie aussi en même temps.
Oui, en philosophie.
Pourquoi la philo?
Parce que la vie de policier, pour lui, il la trouve absolument contingente. C'est-à-dire que la vie de policier, c'est vrai, j'ai interviewé des policiers, j'ai connu des policiers. Oui, même j'ai connu, j'avais un beau-frère qui était procureur de la couronne. T'arrives au bureau, ça t'arrive, un viol, ben tiens donc. Ou le lendemain, oh, c'est un fraudeur. Mm-hmm. Bon, à chaque fois, il t'arrive des choses inopinément dans ta vie, mais c'est pas inopiné dans la vie des méchants.
Oui.
Mais tu es toujours en train de combattre des choses qui t'arrivent, qui n'auraient pas dû arriver. Puis des fois, ça arrive à des gens à qui ça ne serait pas arrivé dans d'autres circonstances ou qui n'auraient pas agi, qui ont agi comme ça cette fois-là. Mais donc, tout ça est contingent, tout ça peut varier. Il y a tellement de variables qui peuvent faire flipper d'un bord ou flipper de l'autre bord.
Mm-hmm.
Alors, cette vie-là, c'est toujours à recommencer. C'est un peu le mythe de Sisyphe.
Oui.
Tu roules ta pierre jusqu'en haut, et quand tu arrives en haut, elle redescend en bas, il faut que tu redescendes et que tu la remontes éternellement. Alors lui, cette vie-là, avec des personnages, même dans la police, des personnages qui sont pas toujours ragoûtants, comme disait quelqu'un, c'est pas tous des prix Nobel, les criminels.
Et ils sont pas tous fins non plus.
Non, c'est ça. Alors, il y a envie de quelque chose de plus absolu, quelque chose qui serait pas contingent, qui serait plus permanent. Une espèce d'îlot de fraîcheur dans l'océan de la bêtise humaine. Alors, c'est pour ça qu'il s'intéresse à la philosophie. Mais il va voir que dans la philosophie, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a toujours la lutte du bien et du mal, parce qu'il commence par la morale. Là. C'est une partie inventée par Socrate.
Oui.
La morale, c'est toujours le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est le travail de la police.
Oui.
Et c'est aussi le travail de l'écrivain policier. Parce que dans un livre policier, il y a la vie et la mort à chaque page. Et ça, c'est formidable.
Mais on va partir en pub, c'est le Radioton, je vous le rappelle. On est maintenant avec Stanley Péan. Bonjour, Stanley.
Bonjour.
C'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble. Je t'avoue, je suis très, très, très impressionnée. Tu as beaucoup plus d'expérience que moi. J'ai relu Bisango, que j'avais lu l'été dernier, avec beaucoup de plaisir. Et à la relecture, je me suis rendu compte que je suis pas du polar. C'est un prétexte.
Pour moi, c'est un polar néanmoins, mais c'est...
Oui, mais tu comprends ce que je veux dire?
Non, je comprends très bien.
Il y a... D'ailleurs, je pense que c'est, dans le fond, c'est toujours vrai pour tout. Le genre, c'est un prétexte. Raconte-nous un peu, c'est quoi Bisango? C'est qui un Bisango?
Ah bon, il y a le Bisango tel qu'il existe dans la culture, dans le folklore haïtien. C'est un être qui, la nuit, alors qu'on pense que c'est un humain normal, la nuit se dévêt de sa peau humaine pour devenir autre chose. Et cette autre chose, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est dans les contes haïtiens, des contes que ma grand-mère me racontait, souvent, il y avait des bisangos. Dans le livre qui porte ce titre, il y a un personnage que, lorsque vous êtes en face de lui, vous ne le voyez jamais lui, mais la personne que vous avez envie, des fois, secrètement de voir. Ce qui fait qu'il est une sorte de caméléon qui s'adapte aux attentes de son interlocuteur. Et la complexité de la chose vient du fait que s'il y a 30 personnes autour de lui, il se peut très bien que les 30 ne voient pas la même personne. Et donc, cet être-là, il est le schizophrène ultime. Là. Mm-hmm. À force de devoir être ce que les autres veulent qu'il soit, il a même oublié qui il était. Et donc, il est mêlé à une histoire autour d'un gang de rue haïtien à Montréal, un gang de rue qui trafique des femmes et de la drogue. Et donc, il est venu à la rescousse d'une prostituée qui est au service de ce gang-là. Et il y a un lien qui s'établit entre la prostituée et lui parce que elle ne projette rien sur lui. Tout ce qu'elle voit, c'est quelqu'un, c'est comme quelqu'un de flou. Et elle est la seule à ne pas lui imposer une identité, donc du coup, ils vont se lier, puis ils sont donc en cavale, parce que le gang les cherche, les policiers pour des raisons... Les policiers qui enquêtent sur le gang les cherchent aussi, donc tout converge comme à la, je veux pas trop en dire, mais ça finit comme un western parce que ma mère adore les westerns, donc j'ai mis ça dans une ferme avec une fusillade puis tout ce qu'il faut.
Et pendant que tu parlais, ce qui m'est venu justement, elle voit rien. Moi, dans ce livre-là, j'ai vu beaucoup, beaucoup de clins d'œil au monde du polar. Comme ce personnage flou, ça m'a fait penser à Smoke de Westlake. C'est vraiment là où j'étais là.
J'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait, oui.
C'est où j'étais là comme ah, il y a ça, il y a Steele. Hein?
Oui.
Effectivement, est-ce que tu as pensé à Jean-Jacques Pelletier, à ces personnages internes de Urtubiz avec ce
personnage-là? C'est vrai qu'il y a Steele chez Jean-Jacques Pelletier, mais j'avais une autre idée de Steele en tête. C'était, ça venait d'une nouvelle de Richard Matheson qui vient encore de réadapter au cinéma là, avec, avec celui qui joue Wolverine, là, Hugh Jackman. Là. Donc Steele, c'était un personnage, c'était un robot boxeur.
Ouais.
Ouais, c'était plus à ce Steele-là que je pensais.
Ah, OK, parce que moi, tout de suite, j'ai fait le lien. Il y en avec avait plein d'autres là-dedans. Et bon, il y a aussi beaucoup de musique dans ton livre.
On est vraiment étonnés, toujours... là.
Ah oui, là, on s'en peut plus, là. Mais je m'attendais, parce que tantôt on en parlait, moi, j'écoute en sourdine de la musique quand je lis. Et là, je m'attendais à du jazz. Mais il y a du québécois, il y a beaucoup, beaucoup de rap et de hip-hop. Dans le fond, là, tout ce qui touche vraiment au polar, au monde violent, on n'est plus dans le jazz du tout. Là.
Oui, ben, le précédent roman qui remontait quand même à 16 ans avant ça, c'était Zombie Blues, qui était très jazz. Là, ça se passait dans le milieu du jazz.
Justement,
le
personnage, c'est pour ça que...
Mais là, je me suis dit, si je fais un autre roman avec trop de jazz, les gens vont dire, il s'intéresse juste à ça, ou il ne met en scène que des personnages... En fait, j'en ai même fait deux. Il y en a un pour la jeunesse qui se passe dans le milieu du jazz, qui s'appelle Le temps s'enfuit. Bon, le hip-hop, ça allait de soi à cause du gang de rue haïtien. C'est la musique qu'ils écoutent. Puis voilà, il faut aussi être un peu réaliste. Mais il y avait un peu de tout. Je pense que ça commence avec Jean-Louis Murat, parce que la jeune... parce qu'il y a un personnage dont j'ai pas parlé. Il y a cette journaliste qui, elle aussi, enquête sur le Bisango, parce qu'elle pense l'avoir déjà rencontré le 11 septembre 2001, alors qu'elle était de la délégation québécoise qui était là-bas pour l'automne du Québec.
C'est ça, un bel hommage à tous nos amis qui étaient,
là-bas
à ce moment-là.
J'ai puisé dans les souvenirs de nos amis qui étaient là. Ben, je dis nos parce qu'on connaît des gens qui étaient là.
Et il y a... Parce que, bon, sur le coup, quand je l'ai lu l'été dernier, pour moi, c'était clair, c'est du polar, c'est une enquête. Et finalement, je me rends compte, non, il y a deux enquêtes.
Il y a deux enquêtes, puis il y a un élément fantastique qui fait qu'on se pose la question, est-ce que c'est du polar ou est-ce que c'est un roman fantastique?
Dans tes romans, c'est toujours ça. Hein?
C'est vrai.
Tu touches toujours au fantastique un petit peu. Ça m'avait pas étonné, mais cette double enquête, pourquoi les deux?
Ben pour complexifier la chose. J'aime ça faire... j'aime pas le truc les faire simple. Enfin, ça m'est venu aussi
Nadia
comme ça.
Nadia l'a dit, tantôt, elle
moi, j'aime ça faire simple.
Oui, mais ben pour compliqué. Un polar, il faut compliquer les choses parce qu'il faut tromper les attentes du lecteur. Dans le polar, c'est toujours jouer avec les attentes du lecteur. C'est un genre qui est très codifié. Il va avoir des meurtres, il va avoir ci. Donc, il y a des affaires... Tu peux pas passer à côté de ça. Si je mets aucun meurtre, aucun vol, aucune scène de violence, c'est peut-être pas un polar. c'est peut-être un roman intimiste, finalement. Ce n'est pas un roman intimiste, j'ai pris la formule de la cavale. On est presque dans North by Northwest d'Alfred Hitchcock. Là. C'est des gens qui se sauvent avec des gens qui leur courent après.
Oui, il y a Road Movie aussi à travers ça.
Oui, tout à fait. Tout ça à Montréal, puis ça, on sort en Estrie juste à la fin là, pour le western.
Moi, j'ai une question d'écrivain, puisque le personnage Bisango, d'habitude, quand on écrit un personnage, on essaie de le typer, de lui donner une caractéristique, on le développe. Mais là, dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as un personnage comme virtuel auquel tu peux donner toutes tes caractéristiques. Donc, l'écrivain est comme en vacances.
Dans ce cas précis, c'est l'inverse du travail qu'on fait. Normalement, il est construit, le personnage, et on le donne au lecteur construit. Là, je leur donne quelque chose de totalement déconstruit, qui lui-même se cherche. Et donc, c'est comme un fantôme. Et je dis, on fait ça. Il y a aucune règle. Chez Kafka, par exemple, tous les personnages sont comme ça. Ils sont comme des espèces d'abstractions. Puis lui, c'est comme une abstraction que tranquillement, on commence à avoir des éléments sur qui il pourrait être. Et à la fin, il y a une presque révélation, mais ça reste dans le flou. Parce que j'avais choisi comme ça. Puis il y a une idée aussi qui me vient d'un film de Woody Allen, c'est Constructing Harry. Comment ça s'appelait ce truc? Deconstructing Harry.
Oui,
le personnage qui était tout flou.
Oui.
Il était toujours hors focus.
Oui, je tout comme Zélic aussi.
Oui, voilà, il y a tout ça, ces éléments-là de l'homme caméléon, je ne l'ai pas vraiment inventé. D'ailleurs, le personnage qui est au centre, celui que les gens, que les Haïtiens prennent pour un bisango, puisqu'on est prêt à définir qui il est, c'est le personnage d'une de mes nouvelles qui a paru il y a très, très, très longtemps dans la revue de l'Université Laval, l'écrit primal. Ça s'appelait Caméléon. Puis je suis vraiment reparti de cette nouvelle-là. Puis finalement, il y a peut-être deux lignes de la nouvelle originale qui se retrouvent textuellement dans le roman parce que tout le reste a pris le bord. La thématique seulement est restée.
On parle de jazz et de littérature. J'étais avec Stanley avant la pause musicale. Et j'aimerais un peu qu'on parle, j'aimerais vous entendre tous les trois. Pourquoi, Richard, dans ton cas, le polar, dans ton cas, c'est polar fantastique. Toi, tu t'es inventé un style, Stanley. Ça t'appartient. Tu sais, il y a quelque chose, il y a quand même un côté très haïtien, tu touches à tes racines. Toi, tu parles d'amour sans faire de roman d'amour, Nadia.
Oui.
Et en même temps, j'ai l'impression...
Je me suis inventé un style à moi.
C'est ça. Mais j'ai l'impression que tous les trois, dans le fond, vous parlez... La même chose en creuse, c'est qui l'homme, c'est qui l'humain? Je sais pas, est-ce que... Nadia,
ben,
on commence
fait,
avec toi.
Oui, ça se rejoint peut-être. Tantôt, Richard disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au-delà des apparences. Les gens sont pas toujours ce qu'on croit qu'ils sont. Ben, en fait, moi, ce serait peut-être... Je me rends compte que je travaille beaucoup sur l'idéalisation amoureuse. L'amour n'est peut-être pas toujours ce qu'on croit qu'il est ou ce qu'on voudrait qu'il soit. Alors, puis oui, j'essaie toujours d'aller en profondeur, d'aller dans la partie de soi qu'on cache souvent aux autres, parce qu'on veut pas se montrer fragile, on essaie toujours de montrer qu'on est fort, et puis qu'on est capable de passer à travers toutes les épreuves, qu'on peut tourner rapidement la page, puis c'est faux. Je pense que dans la vie, c'est pas vrai qu'on tourne toujours rapidement la page, puis qu'on est capable de... On n'est pas si fort que ça, hein?
Les gars?
Ben, oui, c'est vrai. Aller au-delà des apparences... Je pense qu'il n'y a pas de littérature, de toute façon, qui est en dehors de ça, de creuser c'est qui l'humain, puis qu'est-ce qu'on fait ici. Puis on disait tantôt que le bisango, il n'existe pas, c'est un personnage déconstruit, mais en même temps, une des fonctions qu'il a dans le livre, c'est de révéler les autres. Ce que les autres voient de lui, ça dit énormément sur ce qu'ils sont. C'est souvent quelque chose de très, très fragile, une zone très, très fragile de leur psychologie qui tout d'un coup est reflétée par lui dans le miroir qu'il leur projette. Puis je me rappelle de quand j'avais cette discussion autour de la nature du livre puis des motivations des personnages, mon éditrice Brigitte Bouchard des Allusifs disait ben Eddie, que le gangster, le chef du gang déploie tant d'énergie pour une fille qui s'est sauvée. Pourquoi? Tu sais, parce qu'il y a comme un cheptel de prostituées qui travaillent pour lui. Mais c'était quelque chose dans l'intime, justement, puis quelque chose qui est de l'ordre du pur, c'est de la possession. À partir du moment où il y en a une qui a le droit de partir, toutes ont le droit de partir, donc il ne peut pas la laisser s'en aller. C'est un très mauvais exemple.
Mais est-ce que c'est pas, quand on veut faire de la littérature, quand on veut faire autre chose que juste du divertissement, est-ce que c'est pas le propre, justement, de la littérature que de vouloir s'attaquer aux apparences, déconstruire les idées toutes faites et proposer, justement, une autre vision, un regard différent sur les choses? En tout cas, moi, je pense que ça va de soi. Puis moi, je ne peux pas m'imaginer écrire un roman sans essayer de déconstruire les préjugés, de déconstruire les idées toutes faites, de déconstruire les idéaux. J'écris pour déconstruire, pour mieux reconstruire ensuite.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'on s'entend que sur le polar, sur le fantastique, sur le roman d'amour, il y a quand même l'étiquette divertissement.
Mais sur toute la littérature, moi, c'est un de mes moyens de me divertir, c'est de lire.
Moi aussi, mais c'est pas ça pour tout le monde, Stanley. Il y a plein de gens qui ne lisent pas, mais qui vont dire, oui, un bon polar sur la plage. Mais
est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? Ça, c'est la bonne question. Moi, il y en a pas, surtout ce que j'ai lu dans ma vie. J'ai 66 ans. Je ne sais pas combien de livres j'ai lu, mais je peux te dire que les livres qui ont changé ma vie, il n'y en a pas 5. Alors, c'est pas décourageant. C'est qu'il y a des livres aussi qui ne vous intéressent pas, mais il y a des livres qui ne vous concernent pas non plus. Mm-hmm. Il y a des livres qui sont merveilleux, qui sont magnifiques, mais qui... Moi, Zola, ça ne me concerne pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça ne me touche pas et ça ne me concerne pas. Alors, j'ai essayé et j'ai changé de voie, mais il y a certains livres, à certaines époques, qui Siddhartha, par exemple, de Hermann Hesse, ça a changé ma vie quand j'avais 22 ans. Je l'ai relu à 35 ans, Bon,
oui, hein?
J'espère que certains de mes livres vont faire ça, mais je l'espère, mais je fais pas ça pour ça.
Tu ne fais pas ça pour divertir?
Ni pour divertir, ni pour changer quelque chose, mais c'est un besoin de raconter une histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, une fois c'est un gars. C'est toujours ça. Ah. Sauf que je trouve dans la vie réelle des choses tellement incroyables. J'ai écrit une nouvelle il y a 2 ans, et dans cette nouvelle-là,
il y a des personnages complètement capotés. Ben, ils sont tous vrais, parce que c'est des gens que j'ai connus. Alors, mon éditeur me disait, hey, t'as de l'imagination. Non. Si t'enlèves tout ce qui est vrai, il reste plus rien. Alors, mais moi, mon travail, c'est de spotter ça, comment dire, regarder ça, puis de le travailler. Ça, c'est le travail, vous connaissez ça, c'est le travail d'écriture qui fait que, on prend des choses vraies, puis on les ajuste ensemble, mm-hmm. on les fabrique comme on fait une sculpture, un morceau de ci, un morceau de ça. Puis là, on regarde si ça se tient. Puis si ça se tient, bien, ça fait une histoire. Le problème du polar, c'est le polar, c'est le genre. C'est que le polar...
C'est un problème.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des règles, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait des, oui. Il y a des balises, je veux
oui,
dire.
Ça,
puis renouveler le genre, c'est pas facile.
Regarde, deuxième journée, jazz et littérature, deuxième heure, en fait, déjà dernière demi-heure. Pendant la pause publicitaire pour vous, nous, on a jasé ici de fiction et de réalité. Et j'aimerais vous partir là-dessus. Est-ce qu'on est capable de le refaire, ça? Ou est-ce que ça se touche?
Ça s'est pratiqué pendant la pause, maintenant prise 2.
Oui, prise 2. On s'est pratiqué.
À propos de l'exhibitionnisme et le malaise que crée un roman intimiste comme ton plus récent.
Oui,
comme
je disais ça, que je réalise que certaines personnes se sentent un peu inconfortables avec l'idée du roman intime parce qu'ils se sentaient mal à l'aise, se sentaient un petit peu comme voyeurs. Ils entrent dans le couple.
Oui.
En fait, j'ai écrit, je me suis organisée en écrivant pour que le lecteur fasse partie du couple. Je me demandais au début, est-ce que j'écris au « je parle de l'homme à la troisième personne, mm-hmm. puis j'ai décidé que non, je voulais pas que le lecteur soit extérieur au couple. Mm-hmm. C'est trop facile quand on est extérieur de dire, ben faites ci, faites ça, puis ça va être réglé. Alors, en parlant au « je » et au « tu », je me suis dit, forcément, soit on s'identifie à la narratrice, mm-hmm. ou on s'identifie à l'homme dont il est question dans le roman. Je voulais que le lecteur fasse partie du couple et qu'ils vivent en même temps qu'eux leur histoire. C'est pour ça que je le raconte au présent. Mais certaines personnes se sentent mal à l'aise, inconfortables avec cette idée-là d'intimité. Et puis, je trouve ça paradoxal dans notre société. C'est ce qu'on se disait. À une époque où on est... En fait, on baigne dans l'hypersexualisation. Vous êtes à l'arrêt d'autobus, puis il y a un gros poster avec une fille en sous-vêtements, tenue très légère. Vous regardez la télévision, il y a des allusions au sexe. Ça finit plus. Vous regardez la télé-réalité, on exhibe tout le temps.
Facebook
aussi beaucoup. Il y a beaucoup de désinhibition de ce côté-là, puis tellement qu'on le voit même plus. Il y a tellement d'allusions au sexe partout qu'on n'est plus du tout inconfortable avec ça. Par contre, quand vient le temps d'entrer dans l'émotion, dans le sentiment, ouf, on est comme déstabilisé, ça, on est mal à l'aise, on est inconfortable avec ça, parce que justement, on va en profondeur dans les choses, puis je trouve ça paradoxal, justement,
dans la
société.
Oui, mais c'est parce que cette hypersexualité qui est toujours exposée, c'est du spectacle.
Voilà.
On est très à l'aise avec le spectacle. On n'est pas à l'aise avec la réflexion. On n'est pas à l'aise avec l'idée de gratter le bobo puis d'aller au bout des choses. Ce qu'on veut, c'est du spectacle. La fille à moitié dévêtue dans une pub, c'est joli, c'est du spectacle. Puis ça s'arrête là. Peut-être ça peut même vendre
le produit.
C'est
esthétiquement travaillé.
Et c'est travaillé. C'est Photoshop, mon Dieu, quel logiciel.
Parce que la fille est plus vraie. Il y a ça aussi.
C'est ça. C'est plus
ça
vrai.
Ça n'a rien à voir
ce
avec la
plus
réalité.
Vrai. C'est une illusion.
Voilà.
C'est une illusion rassurante.
Mais quand on va au-delà des apparences, justement, et qu'on va au fond des choses, quand ça n'est pas un spectacle, mais qu'on va au cœur de l'intimité, parce que c'est ce que je propose dans mes romans. J'ai découvert, comme je disais, j'ai découvert quand je faisais du roman intime. Je m'étais pas posé la question avant d'écrire, mais je me rends compte que, ben, écoute, c'est ça que je fais. Je vais au cœur des choses, puis justement, j'essaie de montrer ce qui trop souvent n'est pas montré. Et tout ce que trop souvent, on ne dit pas, ce qu'on garde pour soi, de peur d'être jugé par les autres. Et je disais aussi, je n'écris pas pour raconter une histoire. Moi, quand j'écris, j'écris pour faire vivre une histoire. Je veux qu'on se mette dans la peau d'un personnage pendant X temps.
Puis on s'adresse à la personne qui lit personnellement.
Voilà.
Et un par un. Parce qu'on peut même lire le même livre. Chacune, on ne lit pas un livre ensemble comme on regarde une émission de télévision ensemble. On lit. Donc, on s'adresse à une personne en particulier. Et il arrive parfois qu'un livre s'adresse à toi et que tu ne le savais pas. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Ces livres-là changent notre vie parce que c'est comme des outils. Moi, j'ai toujours considéré que les œuvres d'art, ils n'ont pas de sens vraiment. Ils n'ont pas besoin. C'est apporter votre sens.
Voilà.
La preuve, c'est que les gens lisent nos affaires et ils nous racontent. Ah, c'est pour ça que j'ai écrit. Ah, mais c'est ça que j'ai compris. Mais c'est parce que c'était dans le livre. C'est parce qu'on l'a mis peut-être inconsciemment. Il y a plusieurs niveaux. Alors, les gens lisent nos livres pas pour les raisons pour lesquelles on les a écrits.
Non.
Alors, puis si des fois ils trouvent quelque chose qui donne un sens à leur vie, c'est formidable, comme un outil. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de marteau chez eux. Ils n'ont jamais utilisé un marteau. Moi, j'en ai deux, trois, mais pourquoi?
Et combien dans les livres?
Il n'y en a pas besoin de marteau. Oui. Un de mes livres, il se fait assassiner avec une lampe en bronze. Pas besoin de marteau
dans ce temps-là.
Pour tuer quelqu'un. Mais je veux dire, un livre, c'est comme un marteau. Un tableau, c'est comme un marteau. C'est un outil dont on peut se servir pour changer notre vie ou pour donner un sens à notre vie comme lecteur ou comme regardeur ou pas. Ça se peut que ça ne nous concerne pas.
On lit avec nos propres référents, justement.
Oui, c'est apporter votre sens. Moi, j'en suis absolument persuadée, même quand c'est écrit.
Écrit, de la musique, je pense que c'est vrai pour toute œuvre d'art, non?
Mais l'écriture, elle a déjà un code. Tandis que la musique que les gars font ici, le code, c'est leur code. Ils inventent le code en même temps qu'ils
inventent
la musique.
Oui, mais toi aussi, tu inventes le code. Ton écriture, regarde, j'ai trois livres ici devant moi, là.
Ouais.
Et c'est trois codes différents.
Oh, mais je veux dire, le code simple, en allemand, par exemple, je pense qu'on met le verbe à la fin dans les phrases.
Le participe passé, oui. Le participe est à la fin.
Nous, si je dis comme Hemingway, j'ai vu un beau camion rouge, l'ordre j'ai vu un beau camion rouge. On ne peut pas dire rouge, j'ai camion vu.
Sinon, ça devient de la poésie.
Oui, ça
devient de la poésie.
Mais je veux dire,
c'est une chance qu'on n'a pas de poète ici.
Non, mais je blaguais, bien sûr.
Oui, c'est un peu vrai. Mais il y a un ordre dans lequel, tandis que si j'arrive devant un tableau, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, oui, ce sera le mien.
Oui, mais
c'est sûr qu'il y a un sens de lecture. C'est ce qu'on comprend, oui, c'est un roman, un début, un milieu, oui, une fin. Même si on joue avec la chronologie, il y a une logique dans la construction d'un roman qui n'est pas visible quand on regarde un tableau. Et le tableau, on va devoir lui trouver la manière de le voir, puis chacun va le voir différemment. Puis la structure du roman, on finit par se projeter, puis... Il y a quelqu'un un des commentateurs de Bizango qui a dit finalement le livre est comme le personnage. Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un roman fantastique? Est-ce que c'est un polar fantastique? Est-ce que c'est une étude de mœurs? Finalement, on va y projeter ce qu'on veut, puis le livre devient exactement comme le personnage. Puis je pense que c'est vrai de tous les livres.
Mais un roman peut être un tableau aussi.
Oui.
Oui.
Mais c'est narratif néanmoins. Je sais que tu as dit je n'aime pas raconter une histoire, j'aime la faire vivre, mais.
Tu la racontes
pareil. Tu la racontes quand même.
Ben oui, j'ai pas le choix de passer par là.
C'est ça, il y a quand même une histoire. Ben, sauf si on parle, par exemple, anecdotes comme dans Taxi-Man. Là, c'est autre chose, effectivement. Mais effectivement, un roman, un récit, on a un début. Même si tu mets le début à la fin, ça reste une histoire racontée. De retour à jazz et littérature. Et on est déjà presque à la fin de l'émission. Ça a passé vite, hein?
Très vite.
Et j'ai l'impression qu'il en reste des choses à dire. On était rendu pas mal dans réalité, fiction. C'est quoi l'œuvre d'art? Comment on le perçoit? Je sais pas, j'aimerais peut-être faire un petit tour. Vous, quand vous écrivez, vous vous adressez à un lecteur. De l'autre côté, bon, Richard, tu l'as dit, le lecteur vous perçoit autrement. Est-ce que pour vous, ce contact-là, ça vous apporte quelque chose pour le prochain livre? On espère toujours qu'il y a des prochains livres quand on a aimé. C'est quoi des projets qui s'en viennent?
Si j'avais 30 livres d'écrit, je pourrais répondre plus facilement. J'en ai pas, j'en ai juste deux. Avant, j'ai fait des livres universitaires, donc c'est autre chose. Mais oui, ce que les gens disent de tes personnages, c'est extrêmement lumineux. C'est-à-dire que ça éclaire. Parce qu'on a beau les créer, nous, on les voit pas. comme les autres les
c'est
voient.
C'est des bisangos.
Oui, c'est, mm-hmm. c'est exactement des bisangos. Nous sommes tous
on les voit
bisangos.
Comme on veut bien les
ça
voir.
Ça va aller mal. Mais donc, on les crée, on les donne, ils sont vus, ils sont mm-hmm. compris. Ils sont des fois... j'ai été surpris, mon ami Jean-Pierre Gay, quand il a lu mon livre, il est revenu et il m'a dit « J'aime beaucoup ton détective. Hey, » Pourquoi il l'aime? Il n'existe pas. Mais oui, il existe.
Mais oui, il existe. Moi aussi, je l'aime.
Dorénavant, il existe.
Oui, moi aussi, je l'aime. Toi, ton prochain projet, toi, tu es en réécriture de ton premier roman?
Oui, parce que chez Alire, on va republier mon premier roman qui était paru chez Stanquet.
Le ménage.
Un ménage rouge, qui est... D'ailleurs, je donne plus de place oui. à Pagliaro dans le livre, dans la nouvelle version. Et ça va me permettre de réparer des choses. Et c'est ça, d'ailleurs, comme écrivain, c'est vraiment intéressant de... réparer des textes. Donc, la création est là, il s'agit de la rendre meilleure.
Bon, ça fait que lisez de Richard Sainte-Marie, l'inaveux chez À lire, ça vient de sortir. Stanley, tes projets, à part la radio, je sais que tu fais que ça pour le moment, mais
c'est vrai, ben,
on espère quand même que tu écris un petit peu.
J'ai un roman en chantier depuis l'an dernier, quand je venais tout juste de faire paraître Bisango, je me suis dit, ah, je vais en commencer un tout de suite pour être sûr de ne pas laisser
trop passer. Très, très sage.
Puis, donc, ça s'appelle La part des anges. C'est encore une fois un livre étrange avec du fantastique dedans. Je suis pas rendu très loin parce que, à cause de la radio, tiens, justement.
Ah.
Puis le reste de la vie, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose en chantier, donc on ça peut espérer que... d'ici 2 ou 3 ans.
Ah, oh, parfait, quand même. Quand même. Nadia, toi, il y a déjà quelque chose en chantier, je
oui,
pense.
Oui, en fait,
toi,
ben,
tu
je...
les enchaînes.
Ben, c'est ça, rempli de bonnes intentions. J'ai fait comme Stanley, j'ai commencé tout de suite un autre manuscrit, mais je ne voudrais pas trop m'avancer sur ce sujet-là pour le moment parce qu'il est en pause, je manque énormément de temps, puis je ne suis pas tout à fait sûre moi-même d'où je m'en vais avec ça. Il faudrait que je définisse un peu mon projet. Mais je suis à mettre la touche finale à une pièce de théâtre là, qui est pratiquement achevée, qui est un drame, en fait, qui parle beaucoup du marasme créatif et de l'importance de la réalisation de soi, de la réalisation de ses rêves. Puis je commence à penser à chercher un metteur en scène là, pour cette pièce de théâtre-là. Oh. Là, je rêve de m'asseoir dans une salle de théâtre et de voir sur scène mes personnages devenir vivants.
Et voir qu'ils ne ressemblent pas à ce que tu avais en tête.
Oui, c'est ça. Oui, voir justement comment ça peut être interprété, oui. réinterprété. Alors, et ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup voir réalisé. J'aimerais ça que ça voie le jour très, très prochainement. Donc, c'est ça, je commence à...
Bon, fait que merci Nadia, merci Stanley, merci Richard. Je redis vos titres, Richard Sainte-Marie, l'inaveu chez À lire, Bisango de Stanley Péan chez Les Allusifs et L'amour n'est rien de Nadia Gosselin au 400 coups. Tout ça, laissez-vous pas leurrer, polar, fantastique, roman d'amour, ça veut rien dire, c'est des bons livres, c'est ça ce qui compte.